RFI, grand reportage, Charlotte Hydrac.
Bonjour, rediffusion aujourd'hui de grands reportages après la disparition de Simone Veil en France, ses obsèques nationales aujourd'hui aux Invalides à Paris. Je vous propose de réécouter ce reportage tourné en 2014, 40 ans donc, après la loi Veil, la loi sur l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Si le temps des aiguilles à tricoter est bel et bien terminé, les débats, eux, persistent. Quand Simone Veil monte à la tribune le 26 novembre 1974, elle n'imagine pas le rude combat en faveur de l'IVG qui l'attend. Et aujourd'hui, ce combat n'est pas terminé. Le recours à l'IVG concerne près de 6 grossesses non désirées sur 10, contre 4 seulement lors de la promulgation de la loi Veil en 1975. Et pour autant, le nombre global connaît une relative stabilisation autour de 218 000 IVG en 2015. Si l'acte peut sembler courant, les femmes qui y ont recours doivent parfois surmonter bien des obstacles pour que leur choix soit respecté. Aujourd'hui encore, l'avortement reste un tabou, un acte médical qui dérange. Grand reportage, signé Laurence Théo.
Il est tôt ce jeudi matin, quelques femmes arrivent les unes après les autres et s'installent sur des chaises. La salle est modeste, au mur quelques affiches sur les moyens de contraception, au milieu sur une table basse, du café chaud, de la brioche et des bonbons Haribo. Elles ont 37, 26, 24 ou 20 ans. Elles ont décidé d'interrompre leur grossesse en choisissant une IVG médicamenteuse. Ici, au centre du 13e arrondissement de Paris, l'équipe de l'association militante du Mouvement français pour le planning familial accueille ces femmes avec bienveillance et compétence. Silhouette élancée, cheveux poivre et sel, Bénédicte est conseillère conjugale. Elle répond sans tabou aux craintes et aux questions que se posent ces femmes avant l'avortement.
On ne peut pas mélanger les médicaments ensemble, donc c'est pour ça que ça m'a aussi posé des questions, ce qui me peut prendre un peu de l'heure à la même temps avec les médicaments pour...
Oui, alors, je pensais que... Oui, et vous les prenez avant de prendre le Cytotec.
D'accord. Deuxième comprimé. On va laisser aller voir, là, c'est ça, on va aller voir comment on va sentir, parce qu'en fait, je ne sais pas.
Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui part.
Qui part,
des caillots, des bouts de mucus.
Dans les toilettes.
Tous les ans, 220 000 avortements en moyenne sont pratiqués en France. 4 femmes sur 10 connaîtront une interruption volontaire de grossesse au cours de leur vie. Un chiffre étonnamment stable depuis des années. Héloïse Galili est conseillère conjugale.
Il faut savoir que quand même dans une situation sur 4 pour l'IVG, il y a des situations de violence. Donc ça peut être des violences conjugales, des violences intrafamiliales, des viols. Donc il faut tenir compte que quand même dans des grossesses non désirées, il y a ces situations-là qui sont des situations qui au départ dans le rapport sexuel n'étaient pas désirées. Et le reste des femmes, c'est vraiment toutes sortes de situations. Il y a aussi l'inconscient qui joue là-dedans, donc on ne contrôle pas tout. La sexualité, c'est aussi un lieu de désir, un lieu d'inattendu. Donc du coup, les grossesses sont aussi le corollaire de ça.
Cheveux longs, noirs et lisses, visage aux traits fins, suite à un oubli de contraception, Angoun, 37 ans, a décidé d'avorter. Elle explique son choix.
J'ai un partenaire régulier, mais après, voilà, on ne sait pas si ça va vraiment durer. C'est pas forcément un couple très solide. C'était un accident et voilà, après, décider de ne pas le garder.
Et c'était dur de prendre cette décision ?
C'est pas facile et surtout, je ne suis pas très jeune non plus. Donc c'est vrai qu'on se pose encore plus de questions à mon âge que certainement à 20 ans.
Vous avez déjà des enfants ?
Non.
Pourquoi vous avez choisi la méthode médicamenteuse ?
Moi, c'était surtout vraiment la peur du bloc opératoire, l'anesthésie, même si elle peut être locale, mais c'était surtout ça.
Il y a donc deux méthodes pour interrompre une grossesse. La méthode chirurgicale, qui consiste à aspirer l'embryon sous anesthésie, et la méthode médicamenteuse, qu'on peut pratiquer jusqu'à 7 semaines de grossesse et qui provoque une fausse couche. En France, une IVG sur deux est médicamenteuse. Si les femmes se sentent accueillies par une équipe engagée au planning familial, l'accès à l'IVG peut ressembler au parcours du combattant. On retrouve Angoun, elle est enceinte de 7 semaines.
Vous êtes un peu livré à vous-même, donc c'est vous qui appelez les hôpitaux, qui essayez de trouver un rendez-vous pour une échographie, pour une prise de sang. Vous êtes englué dans les carcans administratifs divers et variés, c'est toujours pas facile. Chaque hôpital a ses propres plannings, par exemple ils font les IVG que tel jour de la semaine. Et là, pendant ce temps, votre grossesse avance. Donc, après, faire la fin, vous dites est-ce que je vais pouvoir y arriver. C'est même pas est-ce que je veux avorter ou pas. C'est même est-ce que si je voulais, je pourrais avorter.
À cela s'ajoutent des hôpitaux qui refusent d'opérer après 9 semaines de grossesse. On constate que l'offre de soins varie énormément selon les territoires. Depuis 1975, l'IVG est autorisée en France jusqu'à 12 semaines de grossesse. Lorsque le délai légal est dépassé, un ultime recours est de se rendre par exemple aux Pays-Bas, où l'IVG est encore possible lorsqu'une femme est enceinte de 5 mois et demi. Direction le planning familial de la rue Vivienne, situé au centre de Paris, géré également par l'équipe militante du Mouvement français. Fabienne a 24 ans, elle est soucieuse, elle a dépassé les délais et souhaite avorter. Elle est reçue par Chantal, conseillère conjugale.
Ce qui s'est passé, c'est que c'était à la base une grossesse désirée. Et en fait, mon compagnon, il m'a abandonnée plusieurs fois. Et du coup, j'ai peur de m'engager avec lui, quoi.
On est au planning pour le choix de l'intéressé. Si vous estimez que vous ne voulez pas, ne devez pas donner suite à cette grossesse, on respecte ce choix et on fait tout pour que vous puissiez le concrétiser.
Ouais.
D'accord ?
D'accord.
Dois-je comprendre qu'il y avait une situation, disons, très difficile, voire même violente ?
Il voulait vraiment qu'on ait un enfant et en fait, il commençait à me dire des trucs bizarres. Et, par exemple, il me dit « t'es sûre que t'es enceinte ?» Enfin, il me dit « je vais donner un coup dans le ventre ». Enfin,
Alors, parler de coups dans le ventre, même si ce sont des paroles, c'est de la violence.
Chantal tente de joindre une clinique en Hollande.
Je prends le rendez-vous ?
Oui.
Bonjour, ici le planning de Paris de l'appareil. Je vous appelle pour une personne qui, le 6 octobre, était à 11 semaines et 3 jours. Donc elle doit être un peu plus de 15 aujourd'hui. Ouais. Eh bien, écoutez, je vous la passe, elle va vous raconter tout ça. Merci. Au revoir.
Allô, oui, bonjour.
Elle déplore que 40 ans après la loi Veil, entre 3500 et 5000 femmes soient toujours contraintes chaque année d'aller avorter à l'étranger.
C'est très courant. J'ai pas en tête le nombre de personnes qu'on envoie en Hollande, mais moi, personnellement, j'ai au moins, je suis là 3 fois par semaine, j'en ai quasiment 2 par semaine.
Est-ce que ça vous met en colère qu'on soit obligé d'envoyer des jeunes femmes à l'étranger pour cette question de délai ?
C'est le moins qu'on puisse dire, ça me met en colère parce que c'est une perte de temps considérable pour les personnes qui viennent nous voir, d'argent. Parce que l'IVG en France est remboursé maintenant à 100%, mais là, bien sûr, vous êtes complètement hors de la loi, donc il n'y a aucun remboursement possible. Et puis, c'est vraiment une violence supplémentaire.
Mais pour la jeune fille d'origine camerounaise, le droit à l'avortement en France est une chance.
Moi, je viens du Cameroun, et je sais que c'est interdit. Faut le faire vraiment d'une manière secrète, prendre des pilules au marché noir, ou voir une dame qui a de l'expérience, entre guillemets, dans le domaine, qui va vous trifouiller le truc pour que vous fassiez une fausse couche, voilà quoi. Je pense déjà qu'on a de la chance parce qu'on est en Occident et que les gens ont plus accepté dans les mœurs que voilà qu'on n'ait pas envie d'avoir un bébé quoi.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement.
Depuis la loi Veil du 17 janvier 1975 qui a légalisé l'IVG, plusieurs évolutions sont intervenues. La loi de 1982 a introduit le remboursement. Celle de 1993 a créé un délit d'entrave à l'IVG. Celle de 2001 a porté le délai légal de 10 à 12 semaines de grossesse. Autoriser les médecins libéraux à réaliser des avortements médicamenteux. Des médecins qui toutefois peuvent refuser de le faire en opposant leur clause de conscience. Dernière évolution en date, la loi de 2014 a supprimé la notion de situation de détresse qui stipule qu'une femme n'a plus besoin de justifier son désarroi pour avorter. Eliane Mélier est médecin au sein de l'association qui compte 23 personnes, dont 13 bénévoles. Ce matin-là, elle pratique une échographie.
Voilà, vous allongez. Voilà. Par contre, vous enlevez la ceinture. Vous vouliez voir ou pas ? D'accord. Donc, on voit la grossesse. Et quand c'est dans les temps pour faire l'interruption médicamenteuse. C'est ça qu'on voulait vérifier.
Puis elle prescrira des médicaments à cette jeune étudiante qui souhaite avorter. Pour ce médecin engagé, même si le droit à l'avortement est acquis, au regard de la régression qui a failli se produire en Espagne par exemple, il faut rester vigilant.
c'est le droit fondamental de choisir, et puis tout ce qui affecte ce choix, il nous embête. C'est-à-dire que le fait que sur Internet, on trouve beaucoup de commentaires disant « femme, ça, tu vas regretter, ça va faire mal, tu vas être déprimée, etc. Bon. » Même sur la pilule du lendemain, on entend constamment des commentaires sur « ça rend stérile », des choses comme ça. Donc c'est quand même une entreprise qui est destinée à dissuader les femmes de choisir. Et puis, moi, je sais pas, je vois quand même la situation aux États-Unis. Enfin, les gens qui font des avortements, ils se déplacent avec des gardes du corps. Enfin, je pense que c'est des situations qui laissent penser que si on ne se mobilise pas, on peut se retrouver avec un rapport de force qui serait défavorable et qui voudrait revenir en arrière.
On retrouve Héloïse Galili. Elle constate qu'encore aujourd'hui, l'avortement reste tabou.
Très souvent, quand je regarde d'anciens reportages sur l'avortement, les femmes, il y a beaucoup de femmes qui témoignaient à visage découvert. Parce qu'à ce moment-là, il y avait aussi une revendication d'un droit qu'on considérait légitime, qui était indispensable. Là, actuellement, quand on fait des reportages sur l'avortement, il y a très peu de femmes qui acceptent d'être entendues sans anonymat. Et ça dit quelque chose du regard qu'on porte sur l'avortement. C'est-à-dire qu'il est institué dans les hôpitaux, mais le regard qu'on porte dessus n'est pas légitime. C'est-à-dire que ces femmes-là, on leur renvoie quelque chose de la honte. Et c'est sur ce point-là que je trouve qu'on n'a pas avancé, on a reculé.
Figurant parmi les 1200 centres ouverts en France, le Centre de planification sociale et familiale de la rue Lasson est une structure originale car adossée à un hôpital public de pointe, l'hôpital Trousseau. C'est aussi l'un des plus importants de la région parisienne en fréquentation et en effectif. Morgane a 26 ans, elle est accompagnée de sa mère. Elles attendent dans le couloir. La jeune femme est enceinte à cause d'une pilule trop faiblement dosée. Elle vient de prendre les comprimés qui déclencheront l'interruption de grossesse dans les prochaines heures. Elle a posé une main sur son ventre. Elle dit son appréhension.
Et l'appréhension de la douleur. Et puis de la perte quand même, parce que c'est la perte aussi, quoi, finalement. Même si c'est pas grand-chose, enfin, on fait une échographie quand même, où on voit un petit truc, enfin, c'est quand même quelque chose, enfin, c'est pas rien.
Pour sa mère, Marie, qui a avorté en 1976, à l'âge de 18 ans, un an après la loi Veil, un long chemin a été parcouru.
Je suis tombée enceinte par hasard, un cadeau d'anniversaire. je veux dire, j'étais pas au courant. Moi, j'ai une famille, ma maman parlait pas de sexe, c'était tabou. Je savais même pas que je pouvais tomber enceinte. Bon, c'est un truc tout bête, hein. C'est de l'ancienne génération. J'affrontais ça toute seule, dans une clinique où c'était très, très, très mal vu. Où je me suis fait. On m'a très mal parlé, on m'a très mal traité. Pas d'anesthésie. Relativement douloureux, et dans le cœur et dans le corps, hein. C'est quand même. On vous tape, c'est le saut de la honte. Quelque part, vous êtes une salope, hein. En compte, t'as tué un bébé, t'es une salope.
En moins de 10 ans, 5% des établissements publics et près de la moitié des établissements privés pratiquant l'IVG ont fermé, soit 130 centres au total. Blouse blanche sur chemise rayée, regard bleu et barbe bien taillée, le docteur Philippe Fauché est gynécologue au service d'orthogénie de l'hôpital Trousseau. Pour lui, l'IVG est le parent pauvre des services hospitaliers.
L'IVG n'intéresse pas les gynécologues obstétriciens. Comme je vous l'ai dit, il faut vraiment avoir des parcours très particuliers, très un peu à la marge, un peu comme le mien, pour se retrouver en étant, il y a une formation de chirurgien, gynécologue et obstétricien, à être quasiment intéressé à l'avortement. C'est pas quelque chose qui est valorisé du tout dans les études de gynéco, c'est pas quelque chose qui est valorisé du tout dans les services hospitaliers. Vous ne trouverez pas de professeurs spécialisés dans la régulation des naissances, c'est-à-dire dans la contraception, ce qu'on trouve dans d'autres pays, hein. En France, ça a été quelque chose qui a complètement été abandonné. L'avortement, c'est pas qu'un geste technique, c'est une prise en charge humaine, c'est des rapports lors des consultations. Puis il y a aussi beaucoup de choses, même si la technique, le geste en soi, quand on parle de l'IVG instrumental, parce que l'IVG médicamenteuse, il n'y a pas de geste, mais il y a des choses extrêmement intéressantes à développer sur le plan intellectuel. Donc.
Le médecin lance un cri d'alarme.
On a un gros souci, à mon avis, c'est la relève. C'est-à-dire qu'il faut qu'on trouve des médecins pour faire les avortements. Et ça, c'est vraiment, à mon avis, c'est le problème essentiel sur lequel il faut qu'on réfléchisse là dès maintenant. Il faut qu'on garantisse des statuts corrects aux médecins qui font des avortements. Parce que ceux qui, jusque-là, faisaient des avortements vraiment par militantisme, se contentaient de salaires misérables, mais parce qu'ils avaient la flamme militante, je pense que les jeunes qu'on arrive désespérément à intéresser à la pratique de l'interruption volontaire de grossesse et à qui on propose 50 euros par matinée pour venir travailler, au bout d'un moment, ils vont arrêter. Donc, il faut vraiment que les pouvoirs publics prennent conscience de ce, parce que sinon, on risque d'être vraiment très, très embêté dans les années qui viennent. Une fois que la génération militante ou post-militante, un peu comme moi, j'étais jeune au moment de la loi Veil, mais j'ai quand même rencontré des femmes, surtout des femmes et quelques hommes, mais des femmes qui avaient été des grands militants et qui m'ont inspiré, qui m'ont complètement transmis leur passion. Ça se transmet de moins en moins au fur et à mesure que les années passent.
C'est entre autres à ces questions que devrait répondre le plan IVG annoncé par la ministre de la Santé, Marisol Touraine, pour janvier 2015.
Ah ouais, viens voir s'il te plaît. T'étais où ?
Je suis enceinte.
Quoi ?
Merci à tous ceux qui ont participé à ce reportage. 40 ans après la loi Veil, l'avortement en France, un reportage de Laurence Théo, réalisation Marc Minatel.
Grand reportage sur les 40 ans après la loi Veil sur l'avortement en France. Un long combat, toujours d'actualité et la preuve. Aujourd'hui, une femme meurt toutes les 9 minutes dans le monde des suites d'un avortement clandestin. Chiffre annoncé vendredi dernier par le planning familial. Après le décès de Simone Veil, figure de la vie politique française, grande figure aussi du droit des femmes, retour sur ce fameux discours le 26 novembre 1974 à l'Assemblée. Discours resté célèbre de la ministre de la Santé. Extrait.
Je le dis avec toute ma conviction, l'avortement doit rester l'exception, l'ultime recours pour des situations sans issue. Mais comment le tolérer sans qu'il perde ce caractère d'exception, sans que la société paraisse l'encourager ? Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme. Je m'excuse de le faire devant cette assemblée presque exclusivement composée d'hommes. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. C'est pourquoi, si le projet qui vous est présenté tient compte de la situation de fait existante, s'il admet la possibilité d'une interruption de grossesse, c'est pour la contrôler et autant que possible en dissuader la femme. Nous pensons ainsi répondre au désir, conscient ou inconscient, de toutes les femmes qui se trouvent dans cette situation d'angoisse, si bien décrite et analysée par certaines des personnalités de votre commission spéciale a entendu au cours de l'automne 1973. Actuellement, celles qui se trouvent dans cette situation de détresse, qui s'en préoccupe ? La loi les rejette non seulement dans l'opprobre, la honte et la solitude, mais aussi dans l'anonymat et l'angoisse des poursuites. Contraintes de cacher leur état, trop souvent elles ne trouvent personne pour les écouter, les éclairer et leur apporter un appui et une protection. Parmi ceux qui combattent aujourd'hui une éventuelle modification de la loi répressive, combien sont-ils ceux qui se sont préoccupés d'aider ces femmes dans leur détresse ? Combien sont-ils ceux qui, au-delà de ce qu'ils jugent comme une faute, ont su manifester aux jeunes mères célibataires la compréhension et l'appui moral dont elles avaient un si grand besoin ?
Voilà, c'était donc le 26 novembre 1974, discours de Simone Veil à l'Assemblée nationale en France.